dans le panier de Lisa. Lisa Giraud-Taylor.
Bonjour et bienvenue dans cette petite émission qui va parler de cinéma comme à la fin de chaque mois. Vous allez être contents parce que vous avez une émission aujourd'hui et nous serons encore de retour lundi prochain avec le lutin pour parler cette fois-ci des livres qu'on a lus au mois de février et de ceux qu'on lira au mois de mars. Et vous aurez une émission en plus au milieu de mars, si je me souviens bien, puisqu'on va parler d'exposition et de musique. Enfin, surtout, on va passer de la musique et on va parler d'expo. Sachant que, écoutez, dans la théorie, hein, c'est bientôt le printemps. Les oiseaux chantent, enfin, en tous les cas, avec les tonneaux de pluie qu'on s'est pris, ils ont été noyés aussi, je pense, à mon avis. Donc, écoutez, on profite des brins de soleil qui nous arrivent et on va commencer l'émission en musique avant de parler du premier film, puisqu'en fait, on va parler de deux films et de trois séries et des séries que... Disons qu'on est très très énervé, on est excité comme des puces pour certaines séries qui arrivent. On vous laisse en musique tout de suite avec Bonehem Rasputin. Est-ce que, si quand même, ça a un rapport avec le pays quand même. On a essayé, voyons, on n'est pas dynamique avec le lutin, c'est-à-dire que faut dire qu'on en a marre hein, de la pluie, du ciel gris, des pieds dans la flotte, je pense qu'on a les pieds palmés là. Et on a des branchies aussi, c'est horrible. Allez, profitons des deux rayons de soleil, hein, voilà, et après, de toute façon, ça va pas durer, bien d'accord. Bonhomme, Rasputin, punaise, ça commence mal cette émission.
And his hunger for power became known to more and more people. The demands to do something about this outrageous man became louder and louder.
C'était donc Boney M avec Rasputin. Alors on va parler du premier film, et le film dont on va parler, comme on vous a dit, que ça parlait évidemment de le pays, donc de la Russie, on va parler du mage du Kremlin d'Olivier Assayas. Alors, on est à la chute de l'URSS avec un certain Vadim Baramov. Alors, juste pour la précision, j'avais lu le livre qui s'appelle Le mage du Kremlin, donc c'est pour ça que je suis allée. Non, alors le lutin n'a pas voulu y aller. Il a un problème avec Jude Law. Aussi, il faut le dire. Voilà, donc j'y suis allée parce que j'avais lu le livre et que j'avais beaucoup aimé le roman. Donc je voulais voir ce que ça donnait. Et puis bon, il y a Jude Law quand même. Bon, bref. Donc on est à la chute de l'URSS. On est avec Vadim Baramov, qui est en fait un directeur de théâtre d'avant-garde, qui mène une vie de saltimbanque, de bohème, ce que vous voulez, qui en fait ne rêve que de liberté et de poésie. Et dans les soirées alcoolisées qu'il fréquente, il croise des artistes, des avant-gardistes, des punks, et il tombe un jour sur Ksenia, qui est une performeuse sadomaso, qui n'a pas du tout la langue dans sa poche, et c'est à ce moment-là où se télescope la politique et, on va dire, les médias, puisque Boris Eltsine, qui était donc le leader à cette époque-là, était souvent très imbibé. Et en fait, ils étaient obligés de filmer ses interventions plus ou moins en l'attachant au fauteuil pour ne pas qu'il tombe lors des diffusions télévisées. Oui, ça, c'est ballot quand même. Et en fait, c'est le moment où la bascule a été faite avec les oligarques qui ont commencé à arriver, qui ont commencé à profiter du système, à se rémunérer, à se gaver, en gros, sur la bête. Et c'était plus du tout la vodka qui coulait à flot, mais plutôt le champagne à ce moment-là. Et on va lui présenter un agent du FSB, donc de l'ancien KGB, et il va sentir le potentiel du garçon. Alors pourtant, cet homme, de prime abord, a l'air de absolument rien du tout. Il a un sourire assez figé, il est un peu blond fadasse, mais il le trouve très bon et très un peu fauve, un peu voilà, il sent le potentiel de la bestiole. Cet homme s'appelle Vladimir Poutine, oui, ou pas, voilà. Et donc Baranov va devenir son homme de l'ombre. En gros, il va imaginer l'idée et ils vont imaginer l'idée de prendre le pouvoir, puisque Eltsine est encore là, et de le garder à tout prix. Alors l'ascension s'amorce, Baranov comprend que cet homme-là, qui semblait sans relief, est absolument à un potentiel de dictateur assez énorme, que il a été élevé dans un pur produit et système de Staline, et qu'il n'aspire qu'à une chose, c'est tout contrôler, tout écraser, et en gros, même ses concitoyens, pourvu qu'on y arrive. Alors, son ambition réelle va se heurter à Poutine, puisqu'en fait, à un moment donné, assez vite, ça va commencer à tirer entre les hommes, puisqu'en fait, tout le pouvoir que ce saltimbanque, entre guillemets, a en plus de sa fibre un peu machiavélique qui va décider de façonner ce dirigeant, mais il comprend très très vite les rouages à tous les étages, et ils vont profiter du système, ils vont le verrouiller pour ne pas oublier de virer toutes les personnes qui sont dans leur ligne de mire et qui pourraient leur faire de l'ombre. Voilà, donc comment, machine de guerre, quoi, en gros. Voilà, alors c'est un film qui est assez incroyable. Alors c'est un film très américain. Alors il n'est pas trop manichéen, ce qui est déjà pas mal. Mais enfin bon, voilà, c'est un film très très américain, c'est efficace. Voilà, on vous dit ça, c'est hollywoodien. Moi j'ai bien aimé, mais j'ai vraiment largement préféré le livre au film. Simplement, il y a quand même des acteurs qu'il faut signaler. Paul Dano est absolument incroyable parce qu'il est une espèce de bouille de gosse, vous savez. Paul Dano, en plus, ils lui ont fait une coupe à la Playmobil et il susurre, il parle pas. Il n'ose jamais la voix, mais il est exceptionnellement... d'ailleurs, il vous fout un peu la trouille quand même de temps en temps. Jude Law, il apparaît vers à peu près, je crois, 45 minutes, 1 heure du film. Il est absolument méconnaissable. D'ailleurs, il est carrément transparent. C'est quand même ballot hein, pour un garçon comme Jude Law. Tout de suite, il s'efface en fait derrière son personnage et il fait froid dans le dos quand même assez rapidement. La fille est jouée par Alicia Vikander, toujours aussi jolie et toujours aussi bonne actrice. On voit vraiment les rouages du pouvoir de la communication, d'une communication maîtrisée de bout en bout. Franchement, ça fait un peu froid dans le dos. Je vous dis, c'est très efficace, mais c'est très américain. Lisez le livre plutôt. Voilà, allez à la médiathèque ou à la librairie, allez acheter le livre d'abord et puis éventuellement, si vous avez la possibilité de le voir, allez-y. Mais c'est un bon film, c'est vraiment un bon film et je m'attendais à largement mieux. Bref, on va faire une petite pause musicale et on va parler du deuxième film. Alors celui-là, voilà, ça c'est fait. On va passer Patricia Cass avec D'Allemagne. Ah bah vous allez comprendre pourquoi. Oui, on va parler de Nuremberg juste après.
J'écoute la pluie en vacances d'Allemagne, où j'entends le rock en silence d'Allemagne, où j'ai des souvenirs d'enfance, où j'ai des souvenirs d'enfance, Leninplatz et Anatole France d'Allemagne. L'histoire passée est une injure d'Allemagne. L'avenir est une aventure d'Allemagne. Je connais les sens interdits, je sais où dorment les fusils, je sais où s'arrête l'indulgence. Ah, Wiedersehen, Lili Marlène, reparlez. J'ai des histoires d'amour sincère. Je plane sur des musiques d'Apollinaire. D'Allemagne, le romantisme est plus violent. Les violons jouent toujours plus lent. Des valses viennoises ordinaires. Ah, oh, Wiedersehen, Lili Marlène, reparlez. Vous rassure.
ich habe eine kleine Wildblume, eine Flamme, die zwischen den Wolken blüht. Dalman, j'ai une petite fleur dans le cœur, qui est comme l'idée du bonheur, qui va grandir comme un arbre. Oh,
c'était donc Patricia Cass avec Dalmagne. Alors oui, on va parler du deuxième film qui s'appelle tout simplement Nuremberg, de James Vanderbilt. Alors nous sommes évidemment en 1945 et il est décidé d'instruire le procès du régime nazi à Nuremberg. Il y a un psychiatre américain, Douglas Kelly, qui va évaluer, il va venir évaluer en fait la santé mentale des unitaires du Troisième Reich qui sont dans le box des accusés. Et il va se retrouver très rapidement face à Hermann Göring, où il va se retrouver pris dans un rapport de force. Et c'est vraiment un duel entre guillemets entre les deux. Alors c'est typiquement le film. Et sans être péjoratif ou quoi que ce soit, c'est vraiment le film qui est vraiment destiné au commun des mortels, en gros à ceux qui ne sont pas au fait de ce procès, pas aux personnes qui, de mon cursus, ont eu accès au milieu du procès, qui connaissent les arcanes du process qui a été fait en amont, pourquoi on a fait ce procès, quelles sont la motivation qui a amené à faire ce procès de Nuremberg, et qui ont lu ou entendu ou visionner les divers témoignages, les écrits, etc. sur ces dignitaires-là, et notamment sur Göring, qui est dérangeant de maîtrise, hein, absolument. Et bon, il faut quand même le dire, le film prend quelques libertés avec la réalité, mais ça c'est normal, c'est un film, hein, on rappelle, c'est une fiction. Donc si vous y allez, ne pensez pas que 100% des choses qui sont vraies. Je rappelle, à chaque fois, c'est des films, c'est pas un documentaire. Alors, moi, j'en sors assez mitigé, pas parce que le film est mauvais, c'est pas du tout le propos, c'est que, en fait, j'ai rien du tout appris et que, effectivement, les quelques libertés qui ont été prises, moi, ça m'a gêné. Je pense que 99% de la population, ça les gênera absolument pas. Mais j'admets que c'est ce genre de film qui peut faire parler et qui peut aider les personnes qui ne connaissent pas trop à aller se renseigner, à aller découvrir, notamment ce moment d'histoire, hein, qui n'est pas parfait par ailleurs, on est bien d'accord sur la question. Alors le film se focalise beaucoup sur le face-à-face très ambigu entre donc ce psychiatre Kayley et donc Göring, enfin le Reichsmarschall Hermann Göring, hein, il était encore plus ou moins dans ce titre-là toutes les 5 secondes, qui est une légende de la Grande Guerre. En tant que pilote, et qui était le second dans l'ordre de succession, plus ou moins, de Hitler. Alors, Russell Crowe est absolument imposant, on ne peut pas dire autre chose. Il montre un Göring comme il l'était, c'est-à-dire à la fois charmeur, parce qu'il a été toujours très ambigu comme homme, à la fois charmeur. Alors nous, c'est vrai qu'on a toujours cette image, enfin, beaucoup de monde ont l'image de Göring, effectivement, à la fin de sa vie, en tous les cas, on va dire pendant la Seconde Guerre mondiale, cet homme un bouffi, massif, gros, outre le fait que entre la morphine et la cocaïne, ça a aidé beaucoup. Mais peu se rappellent du Göring svelte, entre guillemets, jusqu'au milieu des années 30, C'était un très très bel homme, vraiment. Enfin, voilà, donc il avait la beauté du diable, ce qu'on appelle généralement. Et il est très habitué à jouer avec les gens, à les flatter, à flirter aussi, pour mieux les soumettre, pour trouver une faille, pour les manipuler vraiment profondément. Et il est très fier des actions que son régime a fait, et lui-même. Et en fait, il se sent absolument pas concerné. Je suis là, bon, et pourquoi ? Et face à lui, ce psychiatre, qui est interprété par Rami Malek, moi j'ai beaucoup de mal avec ce garçon, je le trouve assez fade. Je trouve qu'il parle toujours sur la même tonalité. Alors là, il est limite du cartoon des fois, donc... Perso, j'ai pas trop adhéré, mais bon, voilà, il se retrouve face à cet homme qui méprise tout le monde, et c'est vraiment une partie d'échec qui se joue. Alors, il y a d'autres, personnages qui gravitent autour, qui sont très bons d'ailleurs, il n'y a pas à gérer. Franchement, Michael Shannon et Leo Woodhull, ils sont vraiment très très bons tous les deux. Alors, c'est un film très académique. Très très académique, efficace, hein, comme le premier d'ailleurs, assez didactique, je vous dis, pour les novices. Mais j'ai rien trouvé d'innovant, de surprenant. Alors il y a des images d'archives, hein, de camps, machin, qui ont été vues des centaines de fois, qui sont très bien insérées, ça, il n'y a pas de raison. Mais voilà, je suis ressortie en me disant, bah ouais. Alors ça peut aider effectivement des professeurs ou des gens pour amener une discussion. Après, si vous voulez en savoir plus, outre les pavasses de papier sur les minutes du procès tous les livres qui ont été faits sur ce procès-là et les conséquences de ce procès, il y a aussi deux très bons, on va dire, entre documentaire et film. Il y en a un de documentaire qui s'appelle « De Nuremberg à Nuremberg » de Frédéric Rosif, je pense qu'on doit pouvoir le trouver sur les plateformes, et le film qui s'appelle « Jugement à Nuremberg » de Stanley Kramer. Alors c'est quand même... Celui-ci parle beaucoup plus des magistrats allemands, mais « De Nuremberg à Nuremberg » de Frédéric Rosif, c'est quand même, avec des images archives, etc., c'est vraiment, on va pas dire un pilier, mais en tout cas, un très bon documentaire. Il dure 2h30, donc il faut quand même que vous vous accrochiez aux branches. Moi, ce que j'ai regretté, c'est qu'il n'évoque pas plus les 20 autres et des poussières accusées dans le box, parce que vous aviez quand même des mecs comme Albert Speer, Joachim von Ribbentrop, Rudolf et la clique. Voilà, donc je trouve ça assez dommage de pas avoir, surtout avec ce titre-là. Moi, je pense que c'est le titre qui pêche. Voilà, c'est parce que vous attendez vraiment au procès dans son ensemble, alors que là c'est vraiment pratiquement qu'un duel oratoire. Mais ce qui est montré vraiment, et c'est ce qui est ce qui était plus ou moins malheureusement le but, outre le fait de voir apparaître crime contre l'humanité pour les premières fois, c'est la définition qu'on voit, qui a été faite par Hannah Arendt très très bien, qui s'appelait La banalité du mal. D'ailleurs, elle a eu des tonneaux d'insultes à cause de ça, mais c'est exactement ce qu'elle montre. C'est que on ne cesse d'être confronté à ça, d'un côté ou de l'autre de la barrière, que ce soit les vainqueurs ou les vaincus, mais c'est ça. Vous avez en face de vous quelqu'un qui est banal. C'est le mal absolu, ou en tous les cas ce qu'on peut définir comme le mal absolu, c'est quelqu'un d'absolument banal. Quand vous l'auriez croisé dans la rue, vous n'auriez pas pensé, voilà. Donc c'est vraiment un film qui est fait pour le commun des mortels, et je trouve que c'est déjà beaucoup d'ouvrir la discussion sur ce genre de film. Alors après, en ayant discuté, parce qu'on l'a vu avec le Lutin, quand on est sorti avec le Lutin, on s'est dit, ah ouais... Mais qu'est-ce qu'en aurait fait Spielberg, Scorsese, ou encore Sam Mendes ou Christopher Nolan s'ils se feraient aimer vraiment à des films historiques autres que Dunkerque? Franchement, voilà, on s'est dit, putain, mais Spielberg, Scorsese et Sam Mendes, qu'est-ce qu'ils auraient fait de ce film-là, quoi? Et je pense qu'on aurait vu autre chose que ça. Voilà. Mais bon, après, Nuremberg a le mérite d'exister et d'ouvrir les discussions, ce qui est déjà beaucoup. Alors, on se met une petite musique. Oui, oh bah oui, qu'est-ce que c'est? Ah oui, la balade de Jim Alain Souchon. Et après, on parle donc des séries, dont une série américaine, c'est la série Doudou. Hein. On l'appelle la série Doudou, nous, donc voilà.
« Chrysler, la presqu'île, le boulevard de la mer.
C'était donc la balade de Jim avec de Alain Souchon. Alors on va parler d'une série qui s'appelle Tracker. Tracker, c'est donc la saison 3. C'est sur Disney+, hein, pour ceux qui l'ont fait. Alors Tracker, c'est l'histoire de Colter Shaw, qui est un jeune homme qui est un peu un loup solitaire, qui traverse les États-Unis dans son camping-car et qui utilise ses talents de pisteur pour en fait retrouver des gens disparus. Alors pour aider les particuliers ou même des fois les forces de l'ordre qui l'engagent, puisque aux États-Unis ça se fait assez régulièrement. Et parallèlement, on suit l'histoire familiale de Colter qui en fait est assez nébuleuse suite à la mort de son père. Il y a eu pas mal de choses. Alors à la fin de la saison 2, je peux pas vous le révéler là si vous voulez aller la voir, la révélation partielle sur la mort de son père nous a reconfronté à quelque chose et a fait revenir son frère aîné pour enquêter sur une ou deux affaires avec lui, puis après bon il s'en va et il va fouiller de l'autre côté. Alors c'est ce que je vous disais, c'est vraiment la série doudou. Voilà, c'est une série bienveillante, sans prise de tête, absolument pas. C'est la bonne série pour en gros décompenser ou décompresser, comme vous voulez, parce qu'il y a des bons sentiments. Alors, il y a des vrais salauds hein, dans les épisodes, puisqu'à chaque fois, l'épisode, il y a une affaire et ça se finit. Alors, attention, hein, quelquefois, ça se finit pas forcément bien, mais ça se suit tranquillement. Et ça fait du bien, parce que le héros est un bon gars. Voilà, et ça permet en plus, alors moi je ne suis pas du tout fan de ce genre de série, ben pourtant la série elle fonctionne avec moi, la preuve on en est à la saison 3. ouais. Alors avec une dose de un épisode par semaine, c'est plus que gérable. Et puis je vous dis, il y a une espèce de bienveillance, de gentillesse, même si il y a des affaires assez sordides, etc. Parce que en fait ils mettent dans cette série-là tous les travers, alors de l'Amérique, ça pourrait être du monde entier, mais enfin en tous les cas de l'Amérique, ça nous permet de voyager aussi aux États-Unis, parce qu'ils changent d'état de droite à gauche, et puis pas très souvent dans des grandes villes, c'est souvent dans des villes rurales, dans des grandes villes, mais des gros bourgs, voilà, américains, et c'est toujours entre ces soucis personnels, ces problèmes de révélation familiale et les recherches de ces personnes disparues. Il ménage jamais sa peine. Il est aidé par une avocate, par un hacker et par deux, trois autres personnes. Mais je vous dis, c'est une série qui marche, voilà, qui se déroule bien. Alors peut-être que c'est effectivement dû à l'acteur principal qui a ce côté très empathique, vraiment, mais Tracker, moi je vous dis, c'est la série doudou par excellence, donc nous ça nous plaît, hein, ouais, nous ça nous plaît. Autre série que l'on a vue, c'est la saison 3 aussi, ouais, on fait ce qu'on peut, hein. Apple Télé, c'est Téhéran. Alors, pour résumer, en gros, on suit l'itinéraire d'une jeune femme qui s'appelle Tamar, qui est donc un agent du Mossad, qui est infiltré depuis des années, des années, des années en Iran. Toute relation avec des événements récents serait purement fortuite. Et donc, Tamar doit stopper, en gros, quelqu'un qui est venu aider pour le programme nucléaire iranien. Alors, elle est en solo depuis la fin de la deuxième saison parce qu'elle a désobéi à ses chefs. Elle va donc raccrocher les wagons avec le Mossad pour pouvoir contrer un certain inspecteur de l'Agence internationale d'énergie atomique qui s'appelle Peterson, qui est joué d'ailleurs par Hugh Laurie, donc le fameux Dr. House, qui est en complète roue libre avec sa hiérarchie. Et donc, c'est vraiment la lutte de pouvoir. Alors, c'est une série qui est haletante. Alors, il n'y a pas trop de manichéisme, parce que le Mossad, c'est une série israélienne, n'est pas épargné. Hein. Ils épargnent personne. Hein. Alors, c'est un peu l'habitude des séries israéliennes. C'est-à-dire, quand il faut taper sur le système, ils tapent sur le système. Hein. Là, ça ne les gêne pas. Et on va dire que quelquefois, la vraisemblance n'est pas toujours au rendez-vous parce que vous avez l'impression qu'elle est immortelle, Tamar, et que rien ne lui arrive. Mais ça vous en apprend plus quand même sur les arcanes de ce qui a pu se passer, notamment de ces juifs iraniens qui ont fui les Mollahs après la chute du Shah, mais qui sont très attachés à leur pays, puisqu'ils vivaient là depuis quelquefois des centaines d'années. Alors, ça vous montre aussi la situation actuelle en Iran, la situation des femmes, la répression, le manque de médicaments, mais aussi la liberté d'esprit des Iraniens et des Iraniennes, hein, qui décident de contrer un peu comme ils peuvent le régime, de certains hommes qui sont prêts à soulever pour aider tout le monde, et bien sûr les relations très intenses et très conflictuelles entre l'État hébreu et l'Iran. Bon, ben voilà, hein. Oh, bon, on a vu ça à la télévision aussi. Alors, c'est un peu moins intense que la saison 2, mais vraiment, elle a le mérite de montrer la difficulté de se mouvoir dans ce régime, d'accepter les codes, et même de risquer sa vie quotidiennement pour un mot ou un signe mal interprété, sans compter qu'il y a beaucoup de traîtres hein, dans cette histoire-là. Franchement, c'est toujours très bien foutu. Voilà, c'est vraiment... Alors, il faut le voir en VO, parce que moi, je suis allée tenter la VF, rien que pour voir. Généralement, je tente un épisode en VF pour voir... Non, il faut le voir en VO. Alors, c'est en hébreu, hein, on est bien d'accord, mais c'est très bien sous-titré. Et puis, ça donne les intonations, ils changent de langue. Voilà, par exemple, à un moment donné, ils sont censés parler français. Dans la version française, ils parlent anglais, alors que dans la version hébreu, ils parlent en anglais, en français, en farsi, puisque c'est en l'Iran, en farsi, en hébreu, etc. Voilà, ils jouent avec beaucoup de langues, et ça, c'est agréable, parce que ça ne fait pas trop carré-carré, quoi. Voilà, donc franchement, si ça vous intéresse... Téhéran, saison 3, c'est sur donc Apple TV. N'hésitez pas, parce que franchement, moi j'ai trouvé ça... ouais, hein, la saison 3 est bien. Moins que la 2. Hein. Oui, wow, bah, moins que la 2. Ah non, le lutin a préféré la 2. Bref. Oh non, mais il est fatiguant un peu. On va se faire une petite pause musicale. Il est content. C'est lui qui a choisi la chanson. Il me fatigue. Il m'a dit, ah, mais si tu vas parler de cette série, il faut ce genre de chanson. Pas sûr. Bon, allez, Ricky Martin, Viva la Vida Loca. Living la Vida Loca. Non, c'est Living, c'est pas Viva, c'est Living la Vida Loca, je crois. Donc, Ricky Martin, et on se retrouve après pour une série espagnole et pour les séries qu'on a repérées. Oh, bah, on est excités comme des puces. Hein. Oh, des puces.
That girl's gonna make me fall. She's into new sensations, new kicks in the candlelight. She's got new addictions for every day and night. She'll make you take your clothes off and go dancing in the rain. She'll make you live her crazy life, or she'll take away. City. In a funky cheap hotel, she took my heart and she took my money. She wants to slip me a sleeping pill. She never drinks the water, makes you order French champagne. Once you've had a taste of her, you'll never be the same. You should make you go insane.
And the skin's a color.
Voilà, alors c'était Living La Villa, donc j'avais raison, tu avais tort. Ricky Martin. Alors on va parler d'une série espagnole qui s'appelle Respira. Oui, saison 2, ah oui, on fait ce qu'on peut. Hein. Alors écoutez, si vous suivez ces émissions depuis des années, vous savez, on en a déjà parlé. C'est sur Netflix cette fois-ci. Oui, on s'amuse avec les plateformes. On fait ce qu'on peut déjà. Alors, on est dans la saison 2 à l'orée de la privatisation de l'hôpital, qui va entraîner évidemment l'arrivée d'un nouveau directeur, qui va pousser le personnel à bout, voire à la grève générale presque, et on est toujours à suivre alors plusieurs personnages, mais principalement Patricia et Jessica, qui, elles, au début de la saison 2, sont vraiment en train de lutter pour leur vie. Alors, comment on va faire pour dire on y va franco. Alors c'est très bien joué. Les personnages sont très crédibles, les acteurs sont bons, il n'y a pas de problème. Par contre, alors tout ce qui est cas médicaux, comment vous expliquer ça? C'est du absolument un peu du grand n'importe quoi très souvent. Et honnêtement, on n'y croit pas une minute. Alors, si vous allez sur cette série, c'est pas du tout pour la médecine. Hein. Voilà, c'est pas urgence du tout, du tout, du tout, du tout. Je pense que même, alors moi je suivais pas, mais j'ai des copines qui aiment Grey's Anatomy. Je pense que même dans Grey's Anatomy, les cas médicaux étaient quand même un peu plus, vraisemblables. Parce que les scénaristes, alors c'est ce qu'on se disait. En fait, les scénaristes ont décidé de poser une critique sociale, sociétale, politique, hein, et c'est très bien fait dans la série, ça charge pas mal les politiques, le fric à tout prix, la chute du service public uniquement pour faire trois pépettes de plus, mais alors le monde médical, c'est pas du tout vraisemblable. En plus, il y a des fois, souvent, des ellipses énormes. Et on se rend compte, en fait, que le patient qui était rentré 2 minutes avant et qui était gravement atteint, limite, il allait crever, il était debout, en train de partir. On ne sait pas du tout pourquoi. On a l'impression qu'il s'est passé 3 minutes parce que les personnages reprennent plus ou moins leur histoire où ils étaient 2 minutes avant. Par exemple, je parlais d'un des personnages qui s'appelle Jessica. À un moment donné, elle est greffée d'un foie. 6 semaines après, elle reprend le travail sans aucune séquelle. Elle court comme partout dans un couloir. Elle n'a pas l'air d'être fatiguée des masses. Vous dites, ah bon? Ah ouais, quand même. Voilà, donc, sans parler des situations complètement invraisemblables, hein, parce que alors, le service de gynécologie, ah oui, celle-là, ça nous a fait rire. De pointe, hein, qui est construit, dont on parle dans le couloir, comme si on parlait d'un club sandwich, qui est construit d'un coup de baguette magique, et qu'ils ont trouvé l'argent, le constructeur, en un clin d'œil. Vraiment, alors là, vous vous dites non, mais c'est pas possible. Et pourtant, la série est censée se passer sous quelques semaines, mois. On est d'accord qu'on ne construit pas un bâtiment hospitalier en 2 minutes chrono. Voilà. Alors c'est dommage, hein. Vraiment c'est dommage, parce que c'est une très bonne série qui est fort intéressante, parce que ça met en exergue la fatigue dans les hôpitaux publics, la menace de la privatisation de la santé, du fait que tout le monde va galérer parce qu'il va avoir de la santé pour, sur 2-3 vitesses selon ce que vous aurez les moyens de vous payer ou pas, ce qui est déjà souvent le cas puisqu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de mutuelle. Mais c'est dommage, toutes ces aberrations, parce que ça gâche le propos qui est très bon. Et je vous dis, c'est dommage parce que la série, les acteurs sont bons, leurs personnages sont bien développés, il y a suffisamment de stress, d'engueulades, d'amourettes, de machins, de triangles, de trio qui va pas, de duo qui s'énerve, etc. Mais il n'y a pas de crédibilité au niveau médical, ce qui est dommage. Il n'y a pas la crédibilité d'urgence, il n'y a pas la crédibilité de The Pitt, la dernière série médicale avec Noah Wiley, l'ex-docteur Carter, qui est vraiment très bonne aussi. C'est vraiment dommage. Voilà. S'ils ajoutent un coup de crédibilité sur Respira à la saison 3, côté médical, C'est une très bonne série. Après, nous, ça nous a permis d'entretenir notre espagnol. Ah oui, bon, voilà. Parce que oui, parce qu'on le regarde en espagnol. Mais voilà, c'est dommage. Mais qu'est-ce qu'elle, c'est dommage, parce que vraiment, la série est bonne. Voilà. Elle est vraiment pas mauvaise du tout, mais c'est... Voilà. Alors, je pense que si vous voulez la regarder, vous la regardez pour les... on va dire pour les histoires entre les personnages. Voilà, vous faites abstraction des cas médicaux et vous regardez pour ça. Et là, à ce niveau-là, c'est pas mal. En plus, il y a des jolis garçons. Oui, des jolies filles aussi. Oui, alors lui, évidemment, il a craqué sur Jessica, tu m'étonnes. Voilà, mais, oui, mais tu sais quel est mon préféré. Voilà, c'est ça. On n'est pas d'accord du tout. Allez, on va parler des... combien on a dit ? On a 4 séries. 4 séries vraiment... qu'on veut voir. La première, c'est The Gentleman saison 2, la saison de Guerrici. La première était absolument exceptionnelle. C'est sur Netflix, allez-y, hein, franchement. Alors, oui, Guerrici, hein, donc si vous aimez pas la violence, le sang, les tripes et les larmes, voilà, n'y allez pas. Mais sinon, si vous avez aimé The Gentleman, le film, et vous aimez Guerrici, courez, parce que, alors, Theo James, c'est absolument... J'avais pas du tout cette notion de Theo James. Voilà, j'ai eu du mal à m'en remettre. Il est jaloux comme un poulot. Il y a la saison 4 de La méthode de Lincoln, donc de cet avocat américain d'origine mexicaine. Voilà, alors là, il est incarcéré pour un truc, mais toujours aussi bon. Hein. Oui, toujours aussi bon. Il y a Scarpetta, donc avec Jamie Lee Curtis et Nicole Kidman, qui débâcle. Donc moi, j'ai beaucoup aimé dans les années 90 la série des Quai Scarpetta, en fait, de Patricia Cornwell. J'en ai lu 15. Après, j'ai un peu arrêté parce que ça tournait en boucle. Là, ils reprennent les premières histoires. Voilà, donc, oui. Puis après, Nicole Kidman, Jamie Lee Curtis, ça se loupe pas trop quand même. Voilà. Et le dernier, alors, on a regardé le premier épisode. Si, si. C'est King and Conqueror, c'est sur Canal+. C'est donc sur la bataille entre les Wessex et Guillaume de Normandie, qui n'était pas encore Guillaume le Conquérant. Donc c'est en 1066 en Angleterre. Comment vous expliquer? On s'est dit, on va se la réserver tranquille pour avril. Non, on va la regarder en mars. Premier épisode est exceptionnel. Vraiment, ah, il est bon. Ouais, bon, voilà, c'est du bon, bonne série historique. Voilà, donc c'est les quatre qu'on va regarder, dont on vous parlera, hein, on est bien d'accord, on va parler au moins fin mars et fin avril peut-être, parce qu'on n'aura peut-être pas tout fini, mais surtout qu'en priorisant, on va sûrement regarder The Gentleman, King and Conqueror, La méthode Lincoln et Scarpetta, donc du coup, donc il s'appelle que Scarpetta d'ailleurs, il n'y a pas écrit Kay, mais bon, Kay c'est le prénom de la fille, voilà, donc du médecin légiste, donc voilà, on va vous en parler. Bah écoutez, j'espère que ça vous a plu, cette petite émission un peu fourre-tout, un peu fouillis, à voir, on est un peu fouillis, on est un peu ouh, oh bah écoutez, la météo n'aide pas, hein, voilà, on a beaucoup de mal. Je vous dis, des branchies et des palmes, hein. C'est terrible, j'ai les pieds palmés, moi, j'en peux plus. Ah non, les bottes, le parapluie, je pense qu'il est vissé sur ma tête, cette merde. Bref, écoutez, on va se quitter en musique. Nous, sur Libertaire FM, on s'occupe de vos petites oreilles, vous vous occupez de vous, de vos proches et de ce que vous aimez. Et éventuellement, malheureusement, j'ose espérer que vous n'avez pas trop de dégâts. Et si tel est le cas, courage, on est avec vous. Nous, perso, on peut rien trop faire, mais écoutez... Écoutez-nous, hein, on vous distraira un petit peu. Voilà, mes petits camarades et moi, on est là pour vous aider moralement à vous... Hein, voilà, on fait ce qu'on peut déjà. C'est compliqué. D'ici là, portez-vous bien, faites attention, vraiment très attention à vous. On se retrouve donc la semaine prochaine avec les livres qu'on a lus au mois de février et de la musique, évidemment. Et on se quitte avec Aurel San. On a décidé de vous mettre la quête. Nous, on aime beaucoup cette chanson. Moi, je voulais mettre Plus rien ne m'étonne. Bah, lutin, bah, tu vas leur bousiller le moral. Ce qui est pas faux. Oh, la quête, c'est pas... Ah, oui, bon, écoute, Aurel San, la quête, à la semaine prochaine. Bisous, bisous. Ciao.
Rien peut me ramener plus en arrière que l'odeur de la pâte à modeler. Maman est prof de maternelle, c'est même la maîtresse d'à côté. J'ai 5 ans et je passe par la fenêtre pour aller me planquer dans sa classe. Elle me dit t'es pas censé être là. J'ai dit près de toi c'est à ma place. J'aime que les livres, je préfère être seul. Donc je suis plus content quand il pleut. Je fais quelques cours de catéchisme, mais je suis pas sûr de croire en Dieu. J'ai 7 ans, la vie est facile. Quand je sais pas, je demande à ma mère. Un jour elle m'a dit c'est pas tout. J'ai perdu foi en l'univers. À 5 ans je voulais juste en avoir 7. À 7 ans j'étais pressé de voir le reste. Aujourd'hui j'aimerais mieux que le temps s'arrête. Ah, ce qui compte c'est pas l'arrivée, c'est la quête. J'balaye les feuilles mortes sur le terrain. Le froid me fait des cloques sur les mains. J'ai 10 ans, j'suis fan de basket. J'm'habille en petit américain. Mon père, mon héros m'a offert les Jordan 8 avec les scratch. Donc j'fais tout pour le rendre fier. Quand il vient me voir à tous les matchs. J'rentre au collège, on me traite de bourge. Normal, mes chaussures coûtent une blinde. J'veux plus les mettre, mon père s'énerve. Toi, toi, tout, nous, on avait rien. J'ai 12 ans, j'fous le bordel en cours pour essayer de me faire des potes. Le prof de musique s'fout en l'air. Il est au paradis des profs. À 11 ans, j'voulais juste en avoir 13. À 13 ans, j'étais pressé de voir le reste. Aujourd'hui j'aimerais mieux que le temps s'arrête. Ah, ce qui compte c'est pas l'arrivée, c'est la quête. Souvent je suis tombé amoureux, mais pour une fois c'est réciproque. J'abandonne lâchement tous mes potes. Je vois plus que ma meuf, on fume des clopes. 14 ans je suis juste un fantôme. Du moins c'est ce que disent mes parents. Chérie veut que je traîne plus qu'avec elle. Pourtant elle me fait la gueule tout le temps. Vu que je déménage, ça nous sépare. Je me dis que l'amour c'est surcoté. Mon frangin m'éclate au basket. Alors je préfère abandonner. J'ai 15 ans, je regarde Kids en boucle. Je traîne avec des gars comme Casper. Mon père est sévère avec moi. Donc je le répercute sur mon frère. À 15 ans, je voulais juste en avoir 16. À 16 ans, j'étais pressé de voir le reste. Aujourd'hui, j'aimerais mieux que le temps s'arrête. Ah, ce qui compte, c'est pas l'arrivée, c'est la quête. Je descends les marches, la peur au ventre, pour intercepter mon bulletin. À la maison, c'est la guerre froide, on se comprend plus donc j'dis plus rien. J'ai 16 ans et j'passe par la fenêtre, pour rejoindre les autres au skatepark. On boit des bières, on fume des joints, et j'raconte tout ça dans mes raps. Les années passent, même un peu trop, au point que j'ose plus chanter mon âge. Mon frangin filme, quand j'mets la bague, ma frangine anime le mariage. Les choses que j'ose dire à personne, sont les mêmes qui remplissent des salles. Maman est là, mon père est fier, et l'univers est pas si mal. À 16 ans, j'voulais juste avoir 17. 17 ans, j'étais pressé de voir le reste. Aujourd'hui, j'aimerais mieux que le temps s'arrête. Ah, ce qui compte, c'est pas l'arrivée, c'est la quête. À 5 ans, j'voulais juste en avoir 7. À 7 ans, j'étais pressé de voir le reste. Aujourd'hui, j'aimerais mieux que le temps s'arrête. Ah, ce qui compte, c'est pas l'arrivée, c'est la quête.